Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier toute l'Église, vous remercier chacun d'entre vous qui avait prié pour moi pendant toutes ces semaines passées où j'ai pas mal souffert de l'arthrose. Ça m'a appris un petit peu ce que c'est que la douleur et peut-être le Seigneur m'a dit, ben tu vois, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de compassion pour ceux qui souffrent. C'est vrai que c'est aussi une école du Seigneur et j'avoue que ça m'a paru long. J'ai été 5-6 dimanches de suite sans venir au culte et j'apprécie la communion fraternelle. Donc merci de tout cœur pour votre affection, ça m'a beaucoup touché. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans un passage peut-être sur lequel on ne s'aventure pas volontiers pour prêcher, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Donc je vais lire plusieurs passages. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Je lis dans la version de la Colombe. 1 Samuel 2, verset 12. « Les fils d'Élie étaient des Voriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. » Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à trois dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on avait brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande crue, mais de la viande cuite. » Et si l'homme lui disait « On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Et puis, nous passons au verset 22. Élie, leur père, le sacrificateur, était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Le jeune Samuel continue à grandir, etc. Et puis, nous passons au verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, un prophète certainement, on ne sait pas le nom, « Ainsi par l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. » Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père serait à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. » Et puis suivent quelques versets qui montrent la sanction de Dieu qui l'a promis. Et puis, au verset 34, nous lisons, « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et une miche de pain et dira « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Et il faudrait aussi ajouter au chapitre 3 un peu plus loin, chapitre 3, verset 11, un peu plus court. Alors l'Éternel dit à Samuel, le jeune Samuel dans le temple, « Voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Et puis, un dernier court passage dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, nous lisons ceci à propos d'Israël, à propos de cette question d'Israël, au verset, donc chapitre 11, verset 20. « Fort bien, ces branches ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté. » Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin du secours de ton esprit. Nous avons besoin de toi pour écouter ta parole. Nous voulons, dans l'humilité, te demander de nous bénir, de nous visiter. S'il te plaît, Seigneur, change nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose nos volontés. Apprends-nous à te craindre, apprends-nous à t'écouter, à écouter ta parole, à la prendre au sérieux et surtout à nous laisser transformer par ta puissance, par ton amour. Seigneur, dans ces moments, bénis-nous, bénis les enfants. Seigneur, fais au-delà de ce que nous te demandons. Seigneur, tu es un grand Dieu, nous avons confiance en toi, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Alors, en toute honnêteté, j'ai beaucoup hésité avant de parler sur ce texte parce que c'est un contenu qui fait peur. En tout cas, je l'espère. Et quand j'entendais ce que notre frère nous disait tout à l'heure à propos de cette loi qui risque d'être votée en Angleterre, j'en frémis, n'est-ce pas ? Je crois qu'il nous faut ouvrir les yeux pour savoir dans quel temps nous sommes. J'ai beaucoup hésité parce que je sais, par expérience, je sais que nous... il y a toujours cette crainte d'évoquer dans nos milieux chrétiens ce côté un peu rugueux de l'Évangile. Vous savez, nous sommes à peu près chaque lundi matin avec mon épouse, nous allons dans un groupe de réflexion, de méditation, plus ou moins écuménique, mais enfin il y a surtout des réformés, et nous étudions la Bible, enfin des thèmes, etc. Chacun peut dire ce qu'il veut. Et nous sommes effrayés de voir cette attitude qui, tout en ayant les mots de l'Évangile, les paroles, les mêmes, on a l'impression d'être en famille, cette incapacité à supporter le mot jugement. Nous avions parlé des Thessaloniciens, par exemple. On ne supporte pas le mot de jugement. Comment ? Mais ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Et tout ce qui est tout ce qui est du jugement, tout ce qui est de la responsabilisation de l'être humain est écarté parce qu'on ne veut entendre parler que de l'amour, que l'amour. Ah, Jésus, c'est l'amour, l'amour. Mais quel amour ? Et or, nous avons ici le même Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament comme celui du Nouveau est le même. Vous savez, Jean-Paul II, il paraît qu'il aurait dit un jour qu'il croit tellement que l'amour de Dieu est grand qu'il n'y aura personne en enfer. Mais je me dis, mais quel homme peut avoir une autorité quelconque pour dire quelque chose qui ne correspond pas avec la parole de Dieu ? Alors, je ferai, avant de regarder d'un peu plus près ce texte avec vous, une sorte de préambule, parce que ça me semble important de dire que l'Évangile, même avec cet aspect rugueux, ce côté rébarbatif, ce côté que nous n'aimons pas, nous avons là des choses scandaleuses qui se sont passées, nous allons voir un Dieu qui nous paraît terrible, eh bien, l'Évangile est très cohérent. Il n'y a pas de contradiction dans la révélation de la parole de Dieu, c'est une révélation progressive d'ailleurs. On ne peut pas opposer l'Ancien Testament au Nouveau et vice-versa. Et en Jésus-Christ cohabite harmonieusement l'amour. Oui, Jésus est amour. L'amour et la justice, on trouve aussi la grâce et on trouve aussi la sévérité. Il y a cette capacité de Dieu à avoir mis dans la personne de son Fils Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Et en même temps, c'était un homme qui était capable de se fâcher, de se mettre en colère. Etc. C'est extraordinaire, c'est lui qui nous donne le vrai visage de Dieu, dans lequel se trouve le sucré et l'amer. Non, je dirais ce qui est salé, ce qui est autre. L'Évangile, me semble-t-il, est radical dans sa nature. Je crois que ce qu'il faudrait voir là, c'est la radicalité de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire ? Radical, ça veut dire qu'on touche à la racine. Radical dans ce sens que ce que Jésus-Christ est venu apporter, ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, l'Évangile, c'est un moyen radical, efficace pour traiter le problème du péché, de l'humanité, de la race humaine. Dieu ne s'est pas économisé, si j'ose dire. Dieu ne s'est pas épargné, il s'est investi autant qu'il était possible de le faire. Et il a payé le prix fort. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, etc. Nous savons... Jésus s'est donné tout entier jusqu'au bout, j'allais dire jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il ne pouvait pas faire plus, il n'était pas possible que Dieu fasse davantage pour venir au secours de l'humanité. Mais en contrepartie, il attend une réponse tout aussi claire, tout aussi engagée, tout aussi franche de notre part. Est-ce que cela, nous le comprenons ? Il ne s'attend pas à ce que nous soyons simplement des sympathisants ou gentils. Il dit oui, on n'est pas contre des réponses mi-figues, mi-raisins. Dieu, en retour, nous montre qu'au contraire, pour suivre Jésus, eh bien, c'est du tout au tout. Seigneur, laisse-moi aller d'abord enterrer mon père. On entend quelqu'un dire cela. Et Jésus dit, mais laisse les morts enterrer les morts, toi. Viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Et puis, nous lisons comment les disciples, les premiers, puis d'autres, certainement, tout n'est pas écrit, ils laissèrent tout et le suivirent. Si quelqu'un ne veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et puis, il est dit, Jésus va dire même à un certain moment, si quelqu'un ne hait pas son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, il n'est pas digne de moi. Alors, on est choqué. On comprend, bien sûr, ce que Jésus veut dire. Il faut perdre sa vie aussi pour la retrouver. Il n'y a pas de demi-mesure, si vous voulez, dans cette réponse-là. Alors ça, c'est l'Évangile. L'Évangile cohérent, l'Évangile radical, qui appelle une réponse radicale. C'est tout cela que je voudrais souligner. C'est cela que je vois, en tout cas. Un jour, nous avons dit oui au Seigneur. Beaucoup d'entre nous, j'espère, tous. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Donc un évangile radical appelle une conversion radicale, peu importe la forme, en tout cas radicale dans ses conséquences, dans ce qui suit. Ce n'est pas le fait de s'être donné au Seigneur, comme nous disons, ou de s'être converti, d'avoir donné son cœur, peu importe les expressions qu'on a utilisées lorsqu'on a entendu l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en a été par la suite? Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Alors, en faire moins, être moins que radical dans cette attente du Seigneur pour le suivre, c'est lui faire injure parce qu'il a tout donné. Il ne pouvait pas donner plus. Et en retour, nous avons chanté « Je t'aime, en retour, nous aimons ». Mais souvent, je me pose la question « Et toi, Jean-Pierre ?» Oui, c'est facile de chanter. « Est-ce que tu donnes tout et je surprends dans mon cœur tant de misère, tant de péché ? Combien de fois je m'humilie quand je découvre cette nature qui est là, qui se loge dans les replis les plus cachés de notre nature, de notre personnalité ? Jusque dans nos prières, quelquefois, il faut faire le tri, nous nous battons. Il faut quelquefois se lever au nom du Seigneur et faire taire l'ennemi qui veut nous faire entendre des voix de mensonge ou qui nous piège d'une manière ou d'une autre. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aussi il y a l'Église. Nous ne sommes pas sauvés. Comment expliquer ça? Pour notre seul confort personnel, si j'ose dire. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes seulement. Oui, c'est vrai, pour nous-mêmes. Mais nous sommes impliqués ipso facto, intégrés dans ce corps mystique, de corps qui est l'Église de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, qui elle-même, cette Église, est engagée dans un conflit majeur, spirituel certes, mais tout aussi réel. Et là où l'Église est faible, les forces du mal progressent. C'est ce que nous voyons dans ce texte que nous avons lu. Je lisais dans cette revue de Portes Ouvertes que vous recevez, certains d'entre vous peut-être, que ça c'était au Mexique, des chrétiens étaient chassés de chez eux, puis on leur a donné un terrain, et puis ils ont fait construire un village avec les moyens qu'ils avaient, et ils l'ont nommé Nouvel Espoir. Alors voilà ce que dit l'un des responsables. C'était merveilleux, chaque rue avait un nom tiré de la Bible, rue de Jérusalem, rue de l'Évangile, etc. On entendait des cantiques partout. Le dimanche matin, toutes les familles sortaient de chez elles pour aller au culte, à l'église. Tout le village était chrétien, mais ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres car personne ne voulait les employer. Certaines femmes étaient obligées de ramasser du bois pour le vendre au marché. Les enfants n'allaient pas à l'école. Aucune ne les acceptait. Ils ne trouvaient pas de matériaux pour réparer les maisons. Ils n'ont pas trouvé d'aide. Un jour, deux couples sont arrivés. Ils leur ont donné de quoi se nourrir, acheté les terrains à cultiver. Ils ont construit des écoles, ils l'ont fait, etc. Maintenant, quand on va dans ce village, les enfants ne s'appellent plus Jean ou Paul, mais Mohamed ou Mahmoud. Ils n'apprennent pas l'espagnol, mais l'arabe. Pas la Bible, mais le Coran. Qui est responsable? Dit ce frère. Est-ce que ce sont eux qui n'ont pas eu la force de garder la foi? On pourrait le penser. Ou est-ce que c'est l'Église? Car quand ils ont appelé, nous n'avons pas répondu. On n'aurait jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver des musulmans en Amérique latine. Ils essaient de conquérir l'Église persécutée quand cette Église libre ne les aide pas, autrement dit quand elle est faible. En tant que membre du corps de Christ, je suis responsable de prendre soin des autres membres. Je dois m'engager. Oui, l'Église, elle est une sorte de contre-feu. L'Église est appelée à un rôle important, une vocation dans le monde, on le sait. Et elle est le sel et la lumière. Et Jésus dit, mais si le sel perd sa saveur, comment la lui rendra-t-on? C'est donc, si vous voulez, notre vécu chrétien qui est en question ici au travers de ce texte. Si Dieu nous ouvre les yeux sur nos faiblesses, certes, il a compassion de nos faiblesses, mais sur nos désobéissances peut-être, nos lenteurs à agir, nos péchés, nos résistances quelque part, c'est une grâce quand il le fait, quand il nous ouvre les yeux. Et c'est là qu'il nous faudra prendre, quand il le fait, quand il ouvre nos yeux sur ces choses-là, et il le fait, c'est là qu'il faudra prendre des mesures tout aussi radicales, C'est là qu'on rejoint la pensée du début, des mesures appropriées, fermes, pour montrer, pour prouver notre sincérité, notre amour pour le Seigneur. Si vous êtes atteint d'une pathologie sérieuse et que votre médecin vous prescrive une médication insuffisante, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que les germes qu'il aurait fallu tuer d'un seul coup au début vont devenir plus résistants et le mal sera pire qu'au début. Parce qu'il faut quand même quelque chose de radical à maladie sérieuse, il faut un traitement sérieux, approprié. Et donc, c'est ainsi que ce sacrificateur Élie a procédé. C'est exactement ce qu'il a fait, un traitement inefficace. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Alors, comment les choses ont-elles pu en arriver là très rapidement? Eh bien, le sanctuaire de Silo était le centre névralgique d'Israël, qui devait régler toute la vie d'Israël dans le culte, dans la célébration du culte, et puis la diffusion de la loi. Nous sommes ici à la fin de la période des juges, qui a duré, je ne sais plus, peut-être 300 ans, quelque chose comme ça. Or, Israël s'est montré infidèle à ces choses-là. On le voit dans ce livre des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, vous connaissez ce leitmotiv, et où il y avait donc un oubli de la loi, on avait oublié la loi, et aussi oublié les bienfaits de l'Éternel, où l'on n'a pas achevé la conquête, il fallait conquérir le pays promis. Vous vous souvenez, Philippe, je crois, avait parlé une fois là-dessus, et c'est Josué qui leur dit à un certain moment, jusque à quand serez-vous mou pour prendre possession de votre territoire? Ils n'ont pas achevé la conquête. Et puis, il y a eu cette négligence à débarrasser le pays des cultes idolâtres. Et même, il y avait la tendance à les adopter aussi, ces cultes idolâtres. D'où les dégradations des valeurs morales avec ces fruits empoisonnés que nous connaissons. Israël, qui avait reçu donc cette vocation, devient alors méconnaissable dans ce que nous venons de lire. Pourtant, combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas secouru ses enfants dans leur détresse? Combien de fois n'a-t-il pas répondu à leurs cris, alors même que sa patience était à bout? Par sa grâce, par sa miséricorde, alors qu'il avait juré de les abandonner, il se laissait encore fléchir parce que Dieu a un cœur. Il est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et les années ont passé. Les années ont passé, on ne se rend pas compte en lisant le texte. Et ici, le sacrificateur Élie n'a pas saisi la mesure de la gravité de la situation. Sa conscience est comme anesthésiée. Il est trop tard. Faute de mesures radicales, l'infection a gagné tout le peuple. C'est irréversible. La sanction de Dieu va tomber. Et là, regardons en quels termes va s'adresser au sacrificateur Élie le Seigneur. Dans quels termes il va le faire? Je voudrais, en quatre points maintenant, regarder avec vous ce texte, quatre points autour duquel s'articule ce passage, le reproche de l'Éternel, hein, le personnage d'Élie que nous allons regarder dans un instant, la sanction de Dieu, et puis bien sûr, quelle leçon? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut faire de ce passage? Le reproche de l'Éternel à Élie. Vous remarquez que le reproche, c'est « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» C'est la réaction saine d'un Dieu, comprenons-le, qui est gravement offensé, qui est ulcéré, qui est atteint au cœur. Il avertit par un prophète et en même temps, il informe de ce qu'il va faire exactement. Nous n'avons pas tout lu, mais Dieu montre exactement ce qu'il va faire, ce qui est encore une grâce. Pourquoi foulez-vous, etc. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Ce reproche cinglant qui jette une lumière fait apparaître la vraie réalité, si j'ose dire. Comment les choses sont vues par Dieu? Bien des fois, je me pose la question à moi-même, je dis, mais Seigneur, comment est-ce que toi tu vois? À travers tes lunettes, tu veux dire, ça fait du bien quelquefois parce que ça nous donne un peu de recul. Ce qui nous apparaît, nous, sous un certain angle, n'apparaît pas forcément sous le même angle du côté du Seigneur. Et c'est ainsi que ce que Dieu voit, c'est qu'Élie, eh bien, honore ses fils plus que lui. Élie ne percevait pas ou ne voulait pas percevoir ces choses devant lesquelles il se voilait la face. Et donc là, Dieu, eh bien, ouvre les yeux en quelque sorte sur son serviteur. Il vaut mieux ouvrir nos yeux maintenant. Peut-être trembler un petit peu, plutôt que d'avoir à trembler plus tard. Vous savez, il paraît que les taupes ont les yeux fermés toute leur vie. Elles vivent dans des galeries. Et elles n'ouvrent leurs yeux qu'à la mort. C'est une image. Il vaudrait mieux ouvrir nos yeux maintenant que plus tard, lorsqu'il faudra affronter le jugement de Dieu. Le verset 17 du chapitre 2 nous dit que le péché des fils était très grave, très grand devant l'Éternel. Et il n'y a apparemment personne qui se tienne à la brèche. Nous ne trouvons pas là quelqu'un qui intercède, comme nous le voyons par ailleurs dans d'autres passages. Personne pour dénoncer, pour agir. Dieu réagit de cette manière-là. Et en même temps, dans sa grâce, on voit qu'il a commencé à préparer Samuel. Le jeune Samuel, dans le temple, il y a tout ce déroulement, toute cette histoire qui est tissée en même temps. Et on voit que Dieu est toujours le maître de l'histoire. Il met en place un serviteur et il le dit, il l'annonce. Alors maintenant, le personnage d'Élie, ce sacrificateur, qui nous pose question. C'est un homme pieux apparemment, il ne faut pas si vite que ça lui tomber dessus, qui a exercé pendant 40 ans son ministère de grand prêtre, souverain prêtre. Il a une attitude correcte, saine apparemment, vis-à-vis de Anne, la maman de Samuel, dans le début du livre de Samuel, comment il pensait au début que c'était une femme ivre qui venait prier, vous connaissez cela. Et il lui parle d'une manière spirituelle, si j'ose dire. Il éduquera Samuel, puisque c'est lui qui va avoir la charge d'éduquer Samuel dans le temple avec beaucoup de sérieux, apparemment. Mais dans son caractère, il y a une sorte d'ambivalence. D'une part, il y a une vraie piété, je crois qu'on peut peut-être le dire, lui donner ce crédit, un comportement de sacrificateur fidèle avec plusieurs, mais avec Samuel aussi, un conseil spirituel. Parle, car ton serviteur écoute, il a compris comment Dieu fonctionne. Lorsque Samuel dit, mais oui, j'ai entendu une voix, mais il sait que c'est l'Éternel. Alors, il est bien à ce moment-là. Pourtant, il y a une faiblesse aux conséquences graves qu'il ne voulait pas voir sous son vrai jour. On pourrait presque dire que c'est un vice rédhibitoire. Vous savez ce que ça veut dire, un vice rédhibitoire? Quand on vend un cheval, par exemple, ça n'a rien à voir, mais c'est une image, un cheval, il y a 7 vices rédhibitoires, ça veut dire que s'il y a l'un de ces 7 vices, eh bien, la vente de l'animal est annulée. Le cornage, par exemple, ou l'emphysème, sont des vices rédhibitoires. Et là, Élie a un vice rédhibitoire. Il peut être bien par ailleurs, comme nous venons de le voir, mais là, ça ne passe pas. C'est rédhibitoire, sur lequel l'Éternel ne peut pas passer parce qu'il est lui-même ce qu'il est. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi cette faiblesse? Pourquoi cette mollesse chez Élie? Élie, pourtant, nous l'avons lu, avait bien repris ses fils, mais il l'avait fait comment? Dans quels termes? Pour la forme, avec mollesse. Et puis surtout, il n'avait pas agi, il n'avait pris aucune mesure. Apparemment, il n'avait pas su non plus apprécier les privilèges du Seigneur. Et sans avoir appliqué cette mesure, cette rigueur qu'il fallait employer, la sentence qui s'imposait, c'était au minimum l'exclusion du sacerdoce, même s'il s'agissait de ses deux fils. Souvenons-nous comment Dieu avait foudroyé Nadab et Abihu, simplement parce qu'ils avaient apporté du feu étranger, alors que là, les fils avaient un comportement qui est innommable. En réalité, Élie honorait effectivement ses fils plus que l'Éternel, qu'il le voulait ou non. Il faisait passer ses sentiments filiaux, paternels, tout ce que vous voulez, avant la crainte de Dieu. En réalité, il protégeait le sacerdoce de ses fils, infâmes, et en les protégeant, il se protégeait lui-même. Et son sacerdoce, probablement la facilité, la sécurité de l'emploi, disons, il y avait un statut, il y avait des bénéfices, des privilèges à être là. La tolérance, mes amis, là où il faudrait la rigueur, devient un scandale qui nous rend ennemis de Dieu. J'entendais François Bayrou qui disait l'autre fois aux informations, oui, il y a, c'était à propos des FARC qui détiennent ces otages, il y a des indulgences qui sont coupables. Eh bien, c'est vrai, des indulgences coupables. Et là, c'est au moins une indulgence, si ce n'est pas de la mollesse, la tolérance. Et tout cela, pourquoi ? À cause d'un certain carriérisme, peut-être. C'est sans doute cette cécité-là dans laquelle était tombé Élie qui l'avait amené à se comporter ainsi. Et inconsciemment, ce qu'il vivait était déjà une première forme, un premier jugement de Dieu lui-même. Souvenons-nous que l'une des exigences de Dieu pour les sacrificateurs, c'était l'abstention de vin. Vous savez pourquoi ? Parce que le texte de l'Ancien Testament nous explique, les sacrificateurs, eux, particulièrement intermédiaires entre Dieu et le peuple, devaient être lucides au maximum pour pouvoir discerner le profane de ce qui est précieux, ce qui était profane et ce qui était saint, et pouvoir montrer la voie pour enseigner les choses de Dieu. Ils avaient besoin d'une clarté de vision, d'une lucidité qui était maximum. Et donc là, Élie, nous nous rendons compte qu'Élie était aux antipodes de cette attitude-là. Élie, aux yeux de Dieu, n'avait donc pas réprimé ses fils. C'est une heure de vérité. On pourrait encore faire remarquer une absence de réaction de la part d'Élie et encore moins de repentance. Pourquoi ? Parce que quand Samuel va lui confier avec solennité ce que Dieu va faire, parce que Samuel va lui rapporter tout ce qu'il va faire, alors, eh bien, lorsque Dieu va sévir, Élie va répondre d'une manière tout à fait laconique, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Comme si ça avait été une parole qui lui faisait, excusez l'expression, ni chaud ni froid, comme s'il n'était pas concerné. Cela ne nous rappelle-t-il pas la fausse soumission d'Ézéchias, quelque part aussi dans le deuxième livre des Rois ? On se rend compte que lui avait réagi de la même manière. C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. De son vivant, du moment que de son vivant, les choses n'allaient pas être trop dérangées, c'est pas grave si la sanction tombait sur quelqu'un d'autre après lui. Après moi, le déluge. Alors, il y a là, bien sûr, au minimum de l'inconscience, mais surtout de l'égoïsme. Il y a une autre interrogation, une dernière. Dans le chapitre 4, Élie va montrer un grand souci pour l'arche de Dieu, parce qu'Israël va être confronté aux Philistins dans le chapitre 4, que vous savez, je suppose, on ne pouvait pas lire tout cela. Et puis Israël va être battu, alors tout d'un coup, les Israélites se sont dit, mais voilà, ah, nous avons oublié, allons chercher l'arche. L'arche qui était à Silo, alors on va chercher l'arche de l'Alliance, on va l'amener, et puis on va repartir affronter les Philistins. Et puis là, les Philistins vont leur infliger une sévère défaite. Et puis simplement, quand ces quelques-uns reviennent de la défaite et que Élie entend que l'arche a été emportée, que l'arche a été emmenée par ses ennemis, qu'il guettait, il guettait avec tremblement, son cœur tremblait pour l'arche de Dieu, nous dit le verset 13. Et c'est la mention de l'arche prise qui le fait tomber en arrière. Et c'est là qu'il va se tuer sur le coup. Il va mourir, comme Dieu l'avait prédit. Mais là, n'était-ce pas quelque chose qui est révélateur de sa personnalité, de sa personne ? C'était un attachement à une forme, un attachement, j'allais dire, quelque part superstitieux. Dans cette arche dans laquelle toute la confiance superstitieuse du peuple, comme celui d'Élie, était là, cette arche-là n'était plus qu'une vulgaire caisse. L'Éternel n'était plus là. C'était une caisse. C'est de la superstition. C'est un attachement qui montre à quel point, dans les formes, les choses étaient maintenues, mais à quel point le cœur était éloigné de Dieu. C'est toujours le problème de Dieu, cela. Non pas le problème de Dieu, mais le problème du peuple de Dieu. Le souci de Dieu. Le prophète Osée dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est notre défi permanent, n'est-ce pas ? Alors, troisième point ici, la sanction de Dieu. La sanction de Dieu est terrible, sans appel. elle va tomber inexorable. Et Dieu dit à Samuel, je commencerai et j'achèverai. Ce qui montre bien sa détermination. Elle est à la mesure de l'offense et à la mesure de la sainteté du Dieu d'Israël. Vous savez, quand il y a eu cette fameuse attaque aérienne de Pearl Harbor par la flotte américaine qui a été pratiquement détruite par les Japonais à un moment donné ont eu peur parce qu'ils se sont dit « Mais malheur à nous si nous avions, en faisant cela, réveillé un géant assoupi dont il fallait craindre la terrible réaction. » Et c'est ce qui s'est passé puisque c'est après cela qu'il y a eu la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Un géant qui s'est réveillé. Dieu est un peu comme cela. Il s'est réveillé, c'est une façon de parler, bien sûr, parce que Dieu était toujours là. Il est toujours le même. Et la remarque, c'est que les conséquences, ici, vont tomber aussi sur le peuple qui est frappé du même coup. Dieu se désolidarise de son peuple à partir du moment où il n'est plus ce sel, où il n'est plus cette lumière. Il y aura 34 000 tués dans cette bataille par les Philistins. Les deux fils d'Ophni et Phinée sont tués, comme le Seigneur l'avait prédit. Élie tombe et meurt sur le coup. Sa belle-fille, pareil, elle accouche, et en accouchant, elle va mourir, mais elle est lucide. Et là, en accouchant, elle dit « Ichabod, la gloire est bannie d'Israël ». Elle a compris le drame. La gloire est bannie d'Israël. Le culte aussi est frappé. Dieu laisse l'arche aux mains de ses ennemis, vous vous rendez compte? Cette arche dans laquelle Dieu dit « Là résidera mon nom ». Et il y a un passage dans le psaume 78 qui dit « Il livra sa gloire à la captivité ». Et cela fait référence à l'arche de l'Alliance. Plutôt que de la laisser entre les mains indignes de son peuple, Dieu préfère être radical et dans sa rigueur, il tranche avec la mollesse du sacrificateur Élie. Son bras lui vient en aide. Nous lisons cela dans l'Ancien Testament. Il remet tout à plat. Il écarte dans la violence les responsables du sacerdoce. Il saccage le culte. Il saccage le culte. Vous savez, moi je veux y voir là quelque chose. Probablement, Dieu se fait mal à lui-même. C'est quand même lui qui a initié tout cela, qui a enseigné patiemment. Et lorsque on ne fait pas cas, lorsque son peuple qu'il a choisi ne saisit pas, n'a pas compris, n'a pas ouvert les yeux et compris toutes les conséquences, alors Dieu se fâche d'une manière légitime parce qu'il est saint, au point de se faire mal à lui-même. Il saccage le culte et il se fait mal à lui-même parce que sa sainteté l'exige. Toute une descendance est frappée. Après avoir fait place nette, une nouvelle ère va commencer, bien sûr, avec de nouveaux hommes. Samuel va être le nouveau canal de la révélation. On le voit en même temps dans ce récit. Plus tard, Tsadok, sous le règne de David, sera donc mis en place. Abiathar sera écarté par Salomon au profit de Tsadok parce que cela confirme encore la prophétie de cet homme de Dieu. Dieu a écarté toute la lignée de ce sacrificateur Élie. Vous imaginez sur plusieurs générations ce qui en dit long sur la personne de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel va protéger son nom. Il va préserver sa gloire. Dieu a le souci de sa gloire. Nous le voyons combien de fois dans tous les prophètes. Préserver sa personne. C'est ainsi que nous le découvrons dans un aspect de sa personne. Alors, il reste cette dernière partie, et quelle leçon, comment tirer profit? Je crois que pour nous, il y a beaucoup de choses à retenir, bien sûr. Déjà vous-même, vous pouvez, en réfléchissant, savoir ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a toujours dans notre vie chrétienne l'usure, qui est inévitable parce que nous sommes humains. Les choses qui se poursuivent, la routine, etc., et les formes, et les habitudes, etc. Et puis, c'est vrai que c'est un piège parce que ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est que ça ne nous pose pas de problème. C'est que ça nous empêche peut-être à certains moments de regarder avec lucidité. Et puis, il y a la parole de Dieu qui est relativisée Autrefois, dans cette période des juges, eh bien, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On se rend compte à quel point il faut tenir à la parole de Dieu, s'accrocher de plus en plus à la parole. Et puis aussi, il y a la banalisation du péché autour de nous. Je crois qu'on s'habitue au péché. Mes yeux ne sont plus en réaction lorsque je vois peut-être des images qui passent à la télévision tout d'un coup. Quelquefois, je me culpabilise en disant « Mais pourquoi tu n'as pas éteint ?» Et il n'y a que cela. Qu'est-ce que c'est cela quand j'en parle à nos enfants? Ils disent « Nos enfants ne voient rien. » Nous sommes habitués. Nous entendons ce que notre frère nous disait tout à l'heure. Je veux dire, mais il ne faut pas être surpris. Ce que les hommes sont capables de faire, je crois qu'il nous faut prier pour cela, effectivement, pour être réveillés. Mais sans prétention, et avec votre permission, je n'ai aucune arrière-pensée en disant cela, mais je vais vous proposer maintenant, un peu avec humour, si vous voulez, mais très sérieusement quand même, mes 10 commandements. Ce sera ma conclusion pratique. Je crois que, d'abord, Dieu ne cesse pas d'être amour en même temps. Je voudrais quand même le dire avec force parce que c'est ce qui m'a fait hésiter. Je lui ai dit, mais comment tu vas parler de ça? Dieu est amour. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, Seigneur, viens à mon secours. Comment puis-je parler de ton amour avec un texte pareil? Donne-moi autre chose. Dieu reste quand même amour, ne serait-ce que parce qu'il nous rend attentifs, parce qu'il nous dit la vérité. Vous savez, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, vous le savez ça. Alors, il y a mes 10 commandements, alors je vous autorise à rigoler, hein, mais quand même, c'est sérieux. 1. Être prêt à remettre en question nos vies, nos ministères, si nous en avons un, à la lumière du Seigneur. Être prêt à remettre en question. 2e commandement, 2e point, demander son éclairage sur nous, sur nos priorités, sur nos structures, sur nos organisations, nos façons de faire, etc., etc., si nécessaire, bien sûr, sans phare, sans complaisance, et dire dans les termes de Dieu la vraie nature de nos lacunes, de nos péchés, avec les mots de Dieu. Vous avez vu, le mot de Dieu sur Élie, ce n'était pas le même. 3e commandement, remettre en honneur l'absolue autorité de la parole de Dieu. Nous l'avons dit, cela. Et s'y soumettre avec joie, demander cette grâce-là, prier pour cela, supplier le Seigneur dans nos cellules, à l'Église, que Dieu nous donne un cœur pour sa parole. Mon cœur reste par nature éloigné de sa parole. Je me rends compte qu'il faut quelquefois encore se battre pour ouvrir la Bible. 4e commandement, remettre de l'ordre, quel qu'en soit le prix, là où il le faut, dans nos vies, dans nos structures, nos œuvres, etc., comme vous voulez. 5e commandement, demander la grâce d'entendre ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Parce que l'Esprit parle, l'Esprit dit aux églises dans l'Apocalypse, mais il parle aussi aujourd'hui. Il parle aussi aujourd'hui, de plusieurs manières, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Nous, que le Seigneur, nous demandons la grâce d'entendre ou de voir selon l'œil du Seigneur, pas comme nous. Nous avons une façon de voir. Les meilleurs d'entre nous n'auront jamais le même regard que celui de Dieu, qui est un regard transperçant, le regard de la parole de Dieu, qui est une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux 4:12. Et 6e commandement, autorisons-nous, alors ça c'est collectivement, autorisons-nous réciproquement à nous exhorter et à nous avertir. Ça je crois aussi que c'est important. Moi je vous autorise à me reprendre. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas conséquent avec ce que je dis en particulier, parce que les prédicateurs seront jugés doublement, vous le savez, nous le savons, Jean, hein, nous le savons Gérard, et c'est pourquoi je tremble toujours, et j'ai besoin de vos prières, mais autorisons-nous réciproquement à nous exhorter, à nous avertir fraternellement, bien sûr, comme des sentinelles qui disent, attention, il y a un danger là, c'est la vigilance. 7e commandement, osons instaurer, ou acceptons plutôt, une saine discipline biblique dans nos églises, dans nos sphères d'activité, pour préserver la pureté de l'Église, pour préserver sa crédibilité. 8e commandement, détectons toute négligence, tout laxisme, toute mollesse qui couvrirait un dysfonctionnement ou un péché, une indulgence qui couvre quelque chose de coupable. 9e commandement, souvenons-nous que là, que l'indulgence ou la tolérance, là où il faudrait la rigueur, est une caricature de l'amour. Gardons-nous donc du sentimentalisme, comme c'est Élie, dans l'application de la discipline communautaire ou dans quelque domaine que ce soit. Gardons-nous de remplacer ce que dit la parole de Dieu par ce que nous sentons, par ce que nous croyons, selon notre tête à nous. Aujourd'hui, on ne peut parler que de l'amour, mais c'est un amour qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est trois fois saint. Et dixième commandement, alors, c'est le couronnement. Plaçons l'honneur de Jésus-Christ au-dessus de toutes nos ambitions. Je lis une note que j'avais trouvée dans Épi il y a des années. Et cette petite note disait, aujourd'hui encore, la course à la gloire, sous couvert de piété, peut tenter subtilement les croyants. J'étais étonné, j'ai dit, mais oui, il faut le dire. Aujourd'hui encore, la course à la gloire, dans nos milieux évangéliques, hein, à différents niveaux. Soyons, chers frères et sœurs, donc prêts à tout perdre pour gagner l'honneur de Dieu. Car j'honorerai celui qui m'honore. Ne voulons-nous pas être honorés par Dieu? Mais pour être honorés par Dieu, parce qu'il le fait, nous devons, nous d'abord, l'honorer comme il l'entend. Avec son secours, bien sûr, par sa grâce. La repentance, lorsqu'elle est nécessaire, est une bénédiction extraordinaire. Elle nous ouvre les bras et le cœur de Dieu. Nous allons prier. Je vous remercie. Nous allons prier. Seigneur, nous te craignons, Seigneur. Si nous t'aimons parce que tu nous as tant aimés, c'est vrai, nous le mesurons. Parce que tu t'es donné entièrement, parce que tu nous as tout donné en Christ, si nous t'aimons et nous t'aimons, Seigneur, petitement, il est vrai, nous avons besoin encore de te connaître. Nous avons besoin que tu nous secours par ton esprit pour être ce peuple, pour être ce chrétien, ces frères et sœurs que tu veux que nous soyons. Dans ce temps de la fin, Seigneur, nous te demandons que l'Église de Jésus-Christ soit ce sel de la terre, cette lumière du monde. Seigneur, nous ressentons notre faiblesse. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites, que tu changes nos cœurs, que tu changes nos vies. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'obéir, mais nous nous sentons faibles. Fortifie-nous. Merci pour la joie que tu nous donnes. La joie et toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, nous voulons encore ensemble saisir l'occasion pour prier pour cette loi qui risque de passer en Angleterre. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons, aie pitié, Seigneur, de cet aveuglement. Nous te supplions maintenant, au nom de Jésus, de briser, de neutraliser toutes ces forces du mal qui se liguent pour aller dans un sens qui scandalise ce Dieu trois fois saint que tu es. Et puis, Seigneur, avec l'Église, nous disons, Seigneur Jésus, viens bientôt. Maranatha. Amen.